A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Le sponsor de cet épisode des Couilles sur la table, c'est ADA Tech School, une formation pour devenir développeuse et développeur à la pédagogie alternative qui casse les codes et incite les femmes à coder. Et c'est important car les femmes sont encore largement sous-représentées dans le monde de la tech. ADA Tech School offre une formation unique de 21 mois, dont 12 en alternance, sans prérequis techniques ni académiques. Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans un secteur très porteur, ADA Tech School vous attend. L'école est implantée à Paris, Lyon et Nantes. Il y a 3 rentrées par an et la prochaine est le 27 mai. On nous dit qu'il reste quelques places. Ça vous intéresse? Vous pouvez postuler dès maintenant ou vous renseigner sur le site adatechschool.fr. ADA, A-D-A, Tech et School. Et en attendant, bon épisode!
Bonsoir à toutes et à tous, c'est le dernier épisode de la 2e saison des Couilles sur la table qu'on a décidé de faire en public et en live sur YouTube. Donc merci à My Little Paris de nous accueillir dans ses locaux. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être présentes et présents si vous êtes ce soir dans la salle. Salut. Si vous êtes sur YouTube en ce moment même, salut. Et salut à vous, chers auditeuristes, qui nous écouterez peut-être des mois ou des années plus tard. Voilà comment ça va se passer. On a 1 heure ensemble et pendant 1 heure, on va répondre à toutes vos questions. Enfin, on va essayer de répondre à toutes vos questions. Ce soir, après 45 épisodes des Couilles sur la table, qui est donc, je le rappelle, pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'émission, un podcast de conversation sur les hommes, la virilité et les masculinités. C'est un podcast de conversation féministe. Je vous propose de faire une discussion collective. Donc il y a un micro qui va circuler dans la salle et puis vous pouvez poser vos questions directement sur YouTube. Et enfin, il y a des questions qui m'ont été envoyées par courriel tout au long de l'année auxquelles on va aussi répondre. Comme mon rôle de journaliste, c'est de faire circuler la parole et de trouver les informations les plus utiles et claires aux questions qu'on se pose, j'ai demandé à 2 invités de me rejoindre pour cette émission spéciale, 2 invités que j'ai eu le plaisir de recevoir dans les Couilles sur la table cette année. Jocelyn Tricou, bonjour.
Bonjour.
Jocelyn, docteur Tricou.
Oui.
Parce que maintenant, tu es docteur en sciences politiques et en études de genre. Tu as soutenu ta thèse. Est-ce que tu peux rappeler le titre exact de ta thèse, maintenant que tu l'as soutenue?
Alors, ma thèse s'appelait « Des soutanes et des hommes, subjectivation genrée et politique de la masculinité dans le clergé catholique français depuis les années 80 ».
Je t'ai invité au mois de novembre pour un épisode qui s'appelle « Le clergé, le bien et le mal » où tu nous racontais comment tu analysais les masculinités dans le clergé catholique. C'est un épisode qui a fait beaucoup réagir, mais on va en reparler. Docteur Capote,
désolé.
Bonjour.
Bonsoir, moi je suis docteur sans thèse pour le coup.
Voilà, on a docteur Capote fake, quoi, et docteur ouais. Tricou. Ouais. Donc ton prénom c'est Didier.
Ouais, c'est ça.
Tu es militant de la lutte contre le sida et tu interviens depuis 10 années dans les lycées, dans les centres d'apprentissage essentiellement en Ile-de-France.
C'est vrai, tu m'as rajeuni un peu, c'est plus 20 ans que 10 ans, mais... C'est ça.
Ça veut dire que chaque semaine, tu rencontres des dizaines de jeunes pour parler notamment de sexualité. Ouais. Et on t'a invité dans l'épisode qui s'appelle « L'impossible éducation sexuelle ». Tu écris aussi une chronique à partir de tes discussions avec les jeunes dans le magazine Cosette, chaque mois, dont voici le dernier numéro, je le conseille. Et tu as compilé ces chroniques dans un livre que je vous conseille aussi, qui s'appelle « Génération Q », et que je vous conseille parce que c'est très bien écrit, et puis c'est très drôle. Et ça nous dit beaucoup sur où est-ce qu'on en est là dans l'éducation sexuelle pour les jeunes en France.
Merci.
Allez, on démarre tout de suite pour cet épisode spécial. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai très chaud, tout le monde a chaud, vous avez chaud. C'est un moment idéal pour observer comment s'incarne dans notre vie tous les jours la domination masculine. Peut-être vous voyez de quoi je parle, puisque on m'a posé la question des décolletés et des tenues des femmes dans la rue. Pourquoi est-ce que les femmes montrent autant leur peau dans l'espace public? C'est un jeune homme qui m'a posé la question, je cite. C'est quoi le but de mettre un décolleté si c'est pas pour attirer le mâle? Pompier, pyromane, blablabla, genre tu passes devant la vitrine d'une pâtisserie mais t'as pas le droit de regarder les gâteaux. Mettre un gros décolleté et venir se plaindre d'être regardé par les hommes, c'est quand même super hypocrite. Bon. Alors, normalement, je réagis pas du tout à ce genre de propos parce que j'estime que c'est leur donner trop de place et d'importance. Et en fait, on n'a pas le temps de répondre à ça parce que la vie est courte. Mais le problème, justement, c'est que c'est vraiment une discussion récurrente à laquelle, hélas, je suis sûre que vous allez être confrontés à un moment ou à un autre cet été. Et c'est un problème auquel le féminisme et l'approche par les masculinités peuvent nous aider à répondre. En fait, le problème pour moi, c'est pas pourquoi les femmes mettent des décolletés, ou pourquoi est-ce qu'on se met du vernis à ongles, ou pourquoi est-ce qu'on s'épile, mais c'est plutôt pourquoi est-ce que ce jeune homme, et beaucoup d'autres comme lui, sont incapables d'envisager le corps des femmes dans une optique autre que sexuelle. Comme si tout ce que faisaient les femmes ne pouvait être que dans un but sexuel et de séduction. Et qu'est-ce qui fait qu'il se donne le droit, sans y réfléchir, de commenter les tenues, les attitudes, de regarder sans aucune retenue le corps des femmes? Ça, ça me paraît des questions beaucoup plus intéressantes que se demander pourquoi est-ce qu'on met des décolletés. Mais donc, on va quand même y répondre. En fait, si on met un décolleté, bien sûr, ça peut être pour plaire, mais pas forcément pour plaire à n'importe qui. Ça peut aussi être pour des raisons esthétiques. Et en fait, à la fin, pour moi, être féministe, c'est revendiquer le droit pour chacune de s'habiller exactement comme on veut, avec un mini-short, avec un robe, en se découvrant complètement ou en se couvrant complètement. Et bien sûr, j'inclus là-dedans le fait de choisir de porter un voile, par exemple. Toi, docteur Capote, est-ce que tu es confronté à ce genre de propos quand tu interviens auprès des jeunes? En gros, si les meufs s'habillent comme ça, bah, c'est parce que toutes des salopes, en fait.
Ouais, malheureusement, ça bouge pas beaucoup à ce niveau-là. Alors, j'essaie de travailler toujours sur, effectivement, faire changer un petit peu les représentations. Et je trouvais que ça avançait pas. Et en fait, à un moment donné, j'ai inversé un peu les rôles. Et je me sers de cet outil magnifique qui est le survêt moulant qu'on voit un peu partout. Et du coup, je retourne un peu les choses en disant, mais attends, quand ils me disent, ouais, voilà, ces meufs en legging qui nous montrent leur forme tout le temps, elles sont là pour nous chauffer. Je leur dis, mais attends, lève-toi, fais voir. Et effectivement, ouais, ton petit survêt du Barça qui moule bien tes formes, tu as un message à nous donner. T'essayes de nous chauffer aussi, et je trouve que il y a d'un seul coup il y a alors c'est vrai que c'est peut-être pas forcément moi j'ai pas deux heures, faut être un peu rapide quand même sur on peut pas non plus développer trop longtemps, mais je trouve que d'un seul coup ça inverse un petit peu le rapport de force, et puis surtout il y a un questionnement sur l'objectivation. Alors on a eu un grand débat à cause de là-dessus sur objectivation ou objectification, chacun traduit comme on s'est compris, des corps, et qui concerne quand même beaucoup les femmes et les filles, et d'un seul coup inverser un petit peu les choses, ça les questionne et ça les bouscule, quoi, pour le coup, et c'est pas inintéressant.
Et ça me rappelle un truc qui m'est arrivé juste ce matin. Donc moi, je fais tout à vélo, et y compris quand il fait hyper chaud, donc j'étais en mini-robe. Et donc ce matin, tandis que je me rendais au travail sur mon vélo, j'ai croisé un mec torse nu, ok, qui m'a dit « salope ». Voilà, parce que j'étais en... Et j'étais là, mais... Salope, tu montes ton corps, en gros. Et je me disais, mais enfin, c'est... Donc j'ai pas eu la présence d'esprit de répondre. Je sais pas, j'étais pas très réveillée. Mais voilà, c'est vraiment... C'est, j'adore. C'est exactement ça, en fait. Lui, il se posait pas la question de pourquoi est-ce qu'il avait le droit d'être torse nu sans que personne lui fasse des remarques et sans que personne ne l'objectifie.
Non, ouais, ils se la posent pas. Et par définition, ils vont répondre souvent. Alors, c'est les ados, hein, bien sûr. Et ils vont répondre, nous, on n'a pas de forme.
Ah ben, ils n'ont pas de corps.
Et en fait, ils associent uniquement, effectivement, dans leur tête, c'est les fesses plutôt rebondies des femmes et puis les seins, mais dans leur tête, ils n'ont pas de forme, alors qu'au contraire, effectivement, ils en ont. Ils ont aussi des choses qui peuvent être attirantes, qui peuvent être séduisantes, qui peuvent être sexy, et c'est intéressant à travailler, je trouve, avec eux, quoi.
Jocelyn, tu veux dire un mot?
Oui, je pense qu'à ce moment-là, ils se positionnent complètement comme un masculin neutre et universel, et ils positionnent les femmes comme les autres, en fait. D'où, eux, ils n'ont pas de forme. Parce qu'ils sont normaux. Et la normalité, c'est les autres. Et là-dessus, moi, je dirais qu'il y a... En fait, il y a une injonction contradictoire qui pèse sur les femmes. Soit elles sont trop déshabillées, soit elles sont trop habillées. La question du voile, l'enjeu du burkini, là, à Grenoble, je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire, c'est quand même génial. Il y a des femmes qui viennent en burkini, on ferme la piscine le lendemain, alors qu'on est en pleine canicule. Comme s'il y avait un risque énorme, un danger public, parce que des femmes étaient venues trop vêtues à la piscine. Donc en fait, quoi que fassent les femmes...
Face, tu perds. Pile, tu perds aussi.
Voilà. Alors que sur les hommes, passe cette injonction contradictoire. Et en fait, c'est une arme, ce truc-là, c'est une arme à double tranchant qui permet de tout le temps sanctionner des femmes qui ne répondent pas à nos désirs en tant que mec, etc. On peut peut-être aussi faire le parallèle avec les personnes dominées avec un autre rapport de domination, par exemple les personnes racisées. L'arabe du coin doit être à la fois... Il y a toujours une injonction contradictoire, il faut qu'il soit quand même bien arabe, parce que sinon c'est pas l'arabe du coin, et en même temps il faut qu'il soit le bon arabe, c'est-à-dire le gentil arabe. Et donc voilà, et c'est encore une arme des dominants qui leur permet de toujours sanctionner quand il faut, pas toujours, hein. La sanction ne marche quand on n'a pas besoin de l'appliquer, en fait. Mais on peut toujours l'appliquer.
Et c'est la même chose pour les femmes, je pense, dans le rapport de genre. Voilà. C'est pas très clair, peut-être ? Je sais pas.
Si, moi, je trouve ça clair. C'est bien. Cool. Merci beaucoup. Il y a des questions dans le public. Levez la main. Non, pas encore. Ne soyez pas timide. Vous avez encore une heure pour la poser. Ah, il y a une question au fond, mademoiselle.
C'était pas tant bonjour Colline.
Bonjour.
C'était pas tant une question qu'un rebond sur ce que vous disiez sur la question en fait du concept des non-frères de la sociologue Réjeanne Sénac et qui fait vraiment un parallèle entre en fait tout ce qui est dominé, à savoir les femmes et les personnes racisées, les hommes racisés. Et en fait, on forme un tout. Voilà, les non-frères, on n'en fait pas partie. Et je trouve que ça, c'est un concept qui est hyper intéressant à travailler. Et en termes de convergence des luttes, c'est un concept que je trouve très fort.
Ouais, de remplacer la fraternité par l'adelphité. Ouais, un très bon livre de Réjeanne Sénac. Ok, merci pour ce complément. Jocelyn, passons à ton sujet, parce qu'il a beaucoup fait réagir. Donc en fait, dans l'épisode que tu as fait avec nous, tu montrais, et c'est une partie de ton travail, qu'il y a beaucoup d'hommes homosexuels dans le clergé, qui deviennent prêtres ou moines. Ça a pas, ça a fait quand même polémique là, dans le milieu catholique et ailleurs, non ?
Oui. Et...
parce que t'as, en plus, ça t'a apporté une explication... assez hallucinante et très juste sur pourquoi est-ce que l'Église catholique s'oppose tellement, s'est tellement opposée au mariage pour tous et s'oppose tellement aux études de genre.
Bah effectivement, je défends l'idée que l'Église a été ce lieu, pendant très longtemps, un lieu paradoxal, un lieu d'émancipation paradoxale finalement, où des hommes pas conformes aux normes de masculinité ont pu trouver un refuge et un lieu où ils pouvaient s'épanouir en un sens, en jouant une masculinité, en performant une masculinité assez atypique, celle du prêtre, puisque le prêtre, peut-être que vous ne le savez pas, pour toutes et tous, mais doit être célibataire, continent, etc., etc. Donc voilà. Et tout ça a pu aller sans dire pendant très longtemps. C'est-à-dire que le genre va sans dire tant que tout va bien. Mais dès qu'il y a des enjeux de pouvoir, le genre va mieux en se disant. Et donc aujourd'hui, les sociétés bougeant sous le coup de ce qu'on appelle en sociologie la démocratisation sexuelle, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui on débat des questions sexuelles dans l'espace public, on en fait des lois, etc., eh bien ça met en péril l'institution. Et donc là, l'institution réagit. Et donc peut avoir une politique de masculinité homophobe, alors même qu'elle elle est aussi paradoxalement un lieu de protection des homosexuels.
Super, très bien, très bon résumé. Il y a eu Cléa qui m'a envoyé des questions assez détaillées, qui elle se pose des questions sur le féminisme et l'Église, et qui se demande par exemple comment les femmes qui sont conscientes des abus sexuels et des abus de pouvoir perpétrés au sein de l'Église conservent la foi, pourquoi est-ce qu'elles y restent ?
Bah, il ne s'agirait pas de rejouer la partition de l'institution ecclésiale qui consiste à dire il y a nous et il y a les autres. Enfin, en gros, il y a les homosexuels, c'est nos ennemis avec la théorie du genre, etc. Et il y a nous. En fait, c'est la même chose pour le féminisme. Il y a des femmes qui peuvent devenir féministes au sein même du catholicisme. Et voilà, tout circule. Enfin, je veux dire, les catholiques ne vivent pas séparés de la société, ils vivent dans la société. Donc il y a un certain nombre de femmes qui prennent conscience de trucs, d'enjeux de domination, etc. Et pour autant, ne veulent pas, rejeter leur famille. Parce qu'en fait, l'Église, c'est toujours paradoxal de demander à des gens « Mais pourquoi tu restes ?» Mais parce que c'est la famille. Ils sont nés là-dedans, ils ont grandi là-dedans, et ils ne voient pas pourquoi ils ne bénéficieraient pas aussi des bienfaits spirituels, j'allais dire, de l'Église, au nom du fait qu'il y a des hommes qui monopolisent le pouvoir et des hommes qui utilisent ce pouvoir pour exercer des violences sexuelles sur les femmes. Mais il y a deux stratégies. Soit on se casse et on s'oppose frontalement à l'institution, soit on reste dans l'institution et on espère pouvoir la faire bouger. Et dans l'histoire de l'Église récente, depuis les années 70, en gros, on voit deux types de féminisme catholique ou issu du catholicisme avec ces deux postures-là.
Ok, très bien. Mais ça rejoint le prochain thème que j'aimerais aborder.
Mais peut-être que l'institution catholique paraît très exotique, mais pensez à des histoires de famille. Dans une famille, il peut y avoir de la violence. Et pour autant, vous n'avez pas forcément envie de quitter femme et enfant ou mari ou je sais pas quoi, ou tous ces liens qui sont aussi affectifs. Et la violence, elle est toujours mêlée dans ce genre de relations. Et voilà. Et pourquoi je partirais et je resterais toute seule pour ces femmes ?
Eh ben, écoute, c'est troublant ce que tu dis là, parce qu'il y a une histoire que j'aimerais vous raconter, qu'on m'a envoyée, et sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez. En fait, moi, toute cette année et l'année dernière, j'ai reçu énormément de témoignages de violences sexuelles, ce qui n'est pas étonnant puisque c'est extrêmement répandu. Les violences sexuelles, c'est bien ce que nous a révélé MeToo, si on n'était pas déjà au courant, c'est à quel point c'est répandu. S'il y a deux chiffres qu'il faut que vous reteniez et que j'espère que vous allez répéter tout l'été, donc ça ne va pas mettre une bonne ambiance dans les soirées, mais je pense que c'est toujours une bonne idée de le dire, c'est qu'il y a 12% des femmes en France qui ont été violées et 80% d'entre elles, elles ont été violées par quelqu'un qui leur est proche. Ce qui veut dire qu'on est entouré par des femmes qui ont été violées et qu'on est aussi entouré par des violeurs qui peuvent être nos meilleurs potes, nos frères, nos oncles, nos cousins, etc. Que c'est hyper dur à entendre, mais qu'il faut voir cette réalité-là en face. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait concrètement dans sa vie de tous les jours? Et c'est les problèmes que m'exposent très souvent les auditeuristes qui me racontent ça. Par exemple, il y a cette jeune fille qu'on va appeler Maëva, qui m'a écrit pour me dire « Mon meilleur ami est un violeur. Je le sais, je l'aime. C'est mon meilleur ami, on se connaît depuis qu'on est petit. Mais je sais qu'il a violé une amie à moi. Et quelle position je dois adopter? Est-ce que je me trahis en continuant à être amie avec lui malgré tout? Est-ce que je ne peux pas trouver un moyen de distinguer l'homme qu'il est d'une action ignoble qu'il a commise? Qu'est-ce que je dois faire ? » Moi, je suis toujours très touchée par ce genre de témoignages et je me sens aussi dépassée parce que je suis journaliste, je ne suis pas formée professionnellement à l'écoute et à l'accompagnement des victimes. Donc avant de répondre, j'ai demandé conseil à Inaé Benabin qui a créé l'association En Avant Toutes. C'est une super association qui s'occupe de répondre et d'accompagner les femmes victimes de violences sexuelles via un chat. Et donc Inaé, elle est formée à ça, donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'on peut dire à Maëva. Et je vous invite aussi à vous poser la question de qu'est-ce que vous diriez à ça si quelqu'un vient vous voir en vous racontant cette histoire. En fait, c'est une position qui est super difficile et qui est super répandue. Et dans ces cas-là, on est toujours la seule à pouvoir prendre in fine une décision. C'est aussi important de se rendre compte à quel point c'est représentatif de ce que c'est l'impunité. C'est-à-dire que c'est parce que c'est dans notre cercle, etc., que ça garantit l'impunité. C'est pour ça qu'en France, il n'y a que 1% des violeurs qui sont condamnés. Même s'il y a eu de plus en plus de plaintes pour violences sexuelles, notamment ces derniers mois, il y a de moins en moins de condamnations. Et donc, si Maëva continue à avoir cette amie, c'est aussi parce que les autres le font. Et en fait, dans ces situations-là, personne ne veut être la première personne à rompre, parce qu'on va être marginalisé et qu'on va se mettre tout le cercle à dos, etc. C'est vrai dans les cercles d'amis, c'est vrai aussi dans la famille, etc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On peut dire, comme féministe, qu'il faut toujours croire les femmes qui témoignent des violences sexuelles qu'elles ont subies, et qu'en fait, à un moment, il faut choisir. Et peut-être qu'il faut choisir d'être toujours être du côté des victimes, quel que soit le prix à payer. Mais ça ne se commande pas, ça prend du temps, etc. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'être témoin, entendre des histoires comme ça, c'est très difficile. Et en fait, on récupère aussi la souffrance de la personne qui a été victime. Et quand on est témoin, on peut aussi aller voir des associations. Et c'est aussi le rôle des associations d'accompagner les témoins et de leur apprendre que, par exemple, il faut qu'ils soient patients avec les victimes, qu'ils ne peuvent pas agir à la place des victimes, etc. Et ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Il y a une autre histoire qu'on m'a racontée, c'est celle de Miranda, qui, elle, m'a expliqué qu'elle a été agressée sexuellement par un employé de son oncle, et qu'elle en a tout de suite parlé à son oncle et à son épouse, qui le savent très bien. Et ils lui ont dit, mais en fait, c'était un malentendu, en fait, l'agresseur, c'est pas une mauvaise personne, en fait, c'est pas si grave, et elle m'explique qu'aujourd'hui, l'oncle, il travaille toujours avec l'agresseur, et elle est... extrêmement en colère, parce qu'elle se demande comment c'est possible de travailler avec quelqu'un qui a agressé sexuellement un membre de sa famille, comment est-ce qu'elle peut gérer la situation, comment est-ce que son oncle peut comprendre le mal qu'il lui a fait en continuant à travailler avec l'agresseur. Et là, il y a trois choses importantes que j'aimerais dire. Donc c'est Inaé Benabin aussi qui m'a conseillé là-dessus. C'est que déjà, il y a toujours de quoi être vraiment déçu et vraiment très en colère. C'est des sentiments qui sont légitimes, donc il ne faut laisser jamais personne vous dire que vous n'avez pas le droit d'être en colère, que ce n'est pas bien, qu'il faut vous calmer, qu'il faut être sympa, etc. Et cette histoire, elle me paraît aussi révélatrice, et là on en revient au sujet des couilles sur la table, de comment ça fonctionne la solidarité masculine, en fait, très concrètement. C'est-à-dire qu'on vit encore selon des codes où c'est plus grave de lâcher un pote que d'abandonner la victime, même si elle est proche de vous. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans des expressions, l'expression américaine « bros before hoes », ce qui veut dire « les frères avant les putes », donc les amis avant les femmes. Et je trouve que là, c'est très révélateur, en fait, que lui, il choisisse de soutenir l'agresseur plutôt que sa nièce. Et puis, il y a une troisième chose, qui est que quand on est victime, on a toujours envie que l'autre change, que l'autre comprenne, que l'autre s'excuse, etc. Et en fait, je l'avais déjà dit l'année dernière et ça avait un peu choqué, mais je reste vraiment persuadée qu'on peut pas changer les gens, en fait, pas du tout, et que les seules personnes sur lesquelles on peut agir, c'est nous-mêmes et les gens dont on s'entoure. Et donc le conseil qu'on peut donner, et si jamais vous êtes confronté à cette histoire, que vous pouvez donner à quelqu'un, c'est qu'en fait il faut se séparer de l'entourage qui nous croit pas, qui nous soutient pas, etc. Il faut s'entourer de nouvelles personnes et abandonner tout espoir que l'autre reconnaisse ce qu'il a fait, et surtout que notre survie et notre guérison va dépendre de ça, quoi. Parce que ça, en fait, ça peut pas se commander. Voilà. Ça me paraissait important de dire ça. Je me demandais si toi, docteur Capote, quand tu interviens dans les lycées, dans les centres d'apprentissage, t'es confronté à ce genre de situation et comment tu y réagis.
Écoute, c'est un sujet hyper sensible, hein. Pour le coup, je t'écoutais et c'est toujours assez affligeant et voilà.
Bon, et tellement banal comme situation. Ouais. Enfin, ça arrive hyper souvent.
C'est un moment. De toute façon, déjà, moi, je pars par principe quand je rentre dans une classe, je me dis toujours qu'il y a forcément des concernés. C'est un moment où, dans mes animations, je mets pas mal d'humour sur pas mal de choses, que ça permet de faire passer les choses. C'est quand même des gamins et puis voilà, on aborde quand même des choses difficiles, les virus, la transmission des virus, etc. Enfin bon. Et je me dis, par contre, il y a un moment où l'humour est proscrit, c'est bien évidemment autour de tout ce qui touche le consentement, et où je préfère parler souvent de désir et d'envie partagée. C'est souvent plus clair, c'est moins juridique, c'est moins que le terme consentement, même si bien évidemment je le nomme, mais je l'associe plus au juridique. Et ce que tu racontais me fait penser à un truc, c'est que moi j'ai commencé par faire une prévention hyper hygiéniste, enfin, j'ai la lutte contre le sida, donc on était beaucoup dans la protection des IST, hein, et entre autres du sida, et on parlait de capote, et puis voilà, et puis je me rendais compte que dans les négociations du préservatif, il y avait beaucoup de vulnérabilités qui émergeaient et il y avait beaucoup de filles qui ne se sentaient pas légitimes de dire non et qui acceptaient sous la pression des rapports où elles savaient qu'elles allaient se mettre en situation de danger.
C'est-à-dire que la question, c'était même pas est-ce que le mec met une capote ou pas. La question, c'est est-ce que tu as envie d'avoir un rapport sexuel, en fait, avec lui.
Ouais, elles subissaient la pression, en fait. Et alors qu'au départ, elles savaient très bien qu'elles prenaient un risque. Et je me suis dit, mais ça déconne, on ne peut pas parler que des capotes. Il faut qu'on parle plus en amont de ce qui se passe. Et j'ai eu un flash à un moment donné, malheureusement assez terrible. J'étais à Vitry, c'était en 2002. C'était un petit peu après le féminicide, l'assassinat de Sohan Benzian par son mec qui l'avait brûlé vive. Hein. Et je me retrouve trois semaines, un mois, je sais plus, dans la classe où il y avait des potes de l'assassin. Et les mecs, c'est vraiment ce dont je parlais tout à l'heure, la solidarité de couilles. Hein. C'est-à-dire que les mecs défendaient bec et ongles l'innommable, quoi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Bien, ouais, il faut qu'on travaille autrement. C'est pas acceptable. Comment on travaille là-dessus? Et quand tu travailles d'un point de vue, hein, avec les ados, quand tu travailles d'un point de vue un peu du côté du point de vue féminin, souvent ça marche pas trop bien, et j'ai inversé un peu les choses aussi. Je travaille sur la masculinité toxique et ce qu'on appelle la masculinité toxique et comment elle se joue aussi. Dans un premier temps, je les sensibilise sur comment aussi elle les dessert, en fait. Le nombre de détenus mecs, les prises de risques très jeunes, l'injonction à la virilité et la violence que ça peut générer dans les collèges et quelquefois c'est cette pression qu'ils ont sur les épaules. Et derrière, qu'est-ce qu'ils en font et comment on travaille là-dessus sur la relation à l'autre, en fait. Et je trouve que bon, il y a des outils pour ça. Il y a un outil qui est très bien, avec condition d'être saccadé, d'être bien expliqué, c'est le consentement comme une tasse de thé. Quand on le regarde comme ça, je trouve qu'il n'est pas très bien fait, mais quand on le saccade bien et qu'on l'explique bien, pour le coup, ça déclenche des situations qu'ils n'ont pas envisagées et qu'ils n'imaginaient pas. Et je trouve que globalement, le débat se fait. Après, malheureusement, on est rattrapé par les chiffres, quoi. Et ça, j'arrive pas à me l'expliquer, parce que tout le monde, quand tu discutes avec une classe, tout le monde est conscient de ça. Les mecs vont te ressortir, vont te rejouer les vieux trucs de la mère et la putain. Hein, et puis en même temps, tout le monde acte, et puis en fait, il se passe rien, quoi.
C'est-à-dire, ils te rejouent les trucs de la mère et la putain.
Bah, ils vont te dire, voilà, il y a la femme pure qui n'a jamais eu de rapport sexuel et avec qui je vais avoir des enfants, et puis il y a les putes, quoi, les salopes qui méritent bien ce qui leur arrive quand ça leur arrive, quoi. Et tu retrouves ça quand même assez régulièrement. Alors, c'est toujours compliqué, parce que quand tu les vois en groupe, il y a toujours des meneurs qui vont amener cette discussion. C'est toujours difficile de savoir si c'est une posture de groupe, si c'est le fait de 2-3 qui embarquent tout le monde, si finalement tout le monde le pense. C'est très aléatoire selon les dynamiques de groupe et les endroits, et puis la relation qu'ils ont les uns avec les autres. En tout cas, ça reste quand même très présent, et puis les chiffres sont là, point. C'est tout, quoi. Et en tout cas, c'est un moment d'hypervigilance, tu le disais, parce que moi, je regarde beaucoup les visages, pour le coup, et puis quand je vois, c'est-à-dire qu'il y a celles ou ceux qui vont bien parler à la fin parce qu'ils ont subi des violences, et là, après, on peut mettre en place des choses. Et puis, il y a surtout celles ou ceux qui repartent avec. Alors, si j'ai leur visage, je vais le décrire à l'infirmière, on a un trombinoscope, je vais dire, voilà, ce serait bien de revoir cette fille ou ce mec qui avait l'air pas bien du tout à ce moment-là. Mais voilà, il y en a qui repartent avec ça, hein, pour le coup, et tu peux pas faire grand-chose, tu peux pas leur courir après, quoi.
qui est aussi inquiétant. Enfin, moi, ça m'a vraiment profondément déprimée. Là, il y a quelques jours, il y avait un nouveau sondage Ipsos Mémoire Traumatique qui montrait qu'en fait, ils avaient fait un sondage il y a 3 ans où ils interrogeaient les Français sur les préjugés sur le viol. Par exemple, est-ce qu'une femme qui a été violée l'a un peu cherchée? Et il y a 3 ans, il y avait 40% des interrogés qui répondaient oui. Et là, il y a eu MeToo, on a l'impression qu'il y a eu plein d'articles, etc. Et en fait, il y a le même chiffre. Ça n'a pas baissé, quoi. Et ça me permet d'aborder cette question de la fatigue militante. Toi, ça fait 20 ans que tu fais le tour des lycées, des collèges et tout. Jocelyn, t'es aussi militant. Pas depuis 20 ans, mais depuis un certain temps, à la fois pour la cause LGBT et en même temps pour les réfugiés. Mais tu vas nous en dire un mot après. Et je me pose la question, quoi, de la fatigue, en fait. Est-ce que parfois vous vous dites que ça sert à rien ce que vous faites, que c'est pas les bons outils pour faire changer, que... Je pensais à ça parce qu'en fait, il y a quelques jours, il y a aussi Anaïs Bourdet qui a ouvert le Tumblr qui s'appelle Paye ta schneck. Donc je vois des têtes qui... Je vois hocher la tête. Bon, peut-être qu'il y en a qui n'ont jamais lu le Tumblr Paye ta schneck, mais je pense que c'est un excellent exercice pour qui veut savoir exactement ce qui arrive aux femmes dans l'espace public. Ça vous donne une idée de ce que ça fait de marcher dans la rue, d'entendre depuis qu'on a 11-12 ans des phrases comme « Pourquoi tu me suces pas ?» Je te pète les seins, je vais te violer. Enfin, c'est des trucs qu'on entend. Et elle, depuis 7 ans, elle a cumulé des milliers et des milliers et des milliers de témoignages. Et elle a annoncé il y a quelques jours qu'elle arrêtait parce qu'elle n'en pouvait plus, en fait. Et elle disait, je la cite, elle disait, après Balance ton porc, après MeToo, après toutes les prises de parole, il faut passer à l'étape suivante. Témoigner ne suffit plus, rien n'a changé. Tous les hommes sont toujours aussi violents. Bon. Et toi, j'ai vu que tu avais réagi sur les réseaux sociaux à cette phrase. Tu t'es reconnu en fait dans cette fatigue militante. Alors que faire ?
Oui, ça arrive en fin de saison. C'est comme les séries en fait. À la fin de saison, moi, je suis. Oui, il y a des moments où je suis un peu fatigué. Effectivement, Puis quand je vois des chiffres, tu vois, comme les derniers féminicides, je me dis, ça avance pas, quoi. On parle de MeToo et puis voilà, il va falloir des actes. Très clairement, les paroles, ça suffit. Il faut des actes. Donc, toi, t'es dedans, t'es dans les actes au quotidien. Puis autour de toi, même tes meilleurs potes, des fois, te sortent des trucs énormes que tu comprends pas, hyper sexistes, et tu dis, bon, putain, on va jamais avancer, quoi. Donc, forcément, t'as un petit assis côté. Moi, je comprends ce qui lui arrive. Moi, ce qui nous sauve, en fait, c'est que dans l'associatif, on a. C'est un grand merci à mes collègues, quoi. On est très proches et on a des échanges de pratiques où ça nous permet d'échanger sur ce qu'on vit, de partager notre ressenti avec, en toute bienveillance, sans jugement. Et ça aide beaucoup. Et ce qui n'est pas son cas, parce qu'elle est seule derrière son écran et elle se prend un tombereau d'ignominie au quotidien. Je pense que c'est violent. Et c'est, j'imagine qu'elle est. Oui, j'ai compris. Ça fatigue, ouais.
Et toi, Jocelyn, comment tu gères cette fatigue ? Donc, toi, t'es engagé pour les réfugiés,
ouais.
Dans un collectif qui s'appelle Accueil de merde.
Oui.
Voilà. Et t'es aussi engagé avec les irrécupérables.
Oui. Justement, le titre Accueil de merde, je crois qu'il dit aussi une manière de gérer la fatigue. Alors, je veux être très humble là-dessus parce que je suis pas un militant. Depuis des millions d'années, j'en fais pas beaucoup, j'ai pas tellement de leçons à donner à personne là-dessus. Mais le titre Accueil de merde, justement, c'est de l'humour, évidemment. On renverse le truc. Et je crois que l'humour, alors c'est toujours compliqué l'humour à manier, mais l'humour, en tout cas entre gens qui militent, c'est pas mal. J'aurais tenté aussi de dire que on devient pas le militant ou la militante parfaite du jour au lendemain. On apprend par nos erreurs. Enfin, moi, des propos sexistes, j'en ai eu en tant que mec. Je sais que de toute façon, je profite du privilège masculin constamment. Donc, je peux toujours dire oui, je suis conscient. Mais être conscient, ça permet pas forcément non plus d'arrêter d'en profiter. Enfin. C'est pas parce que je suis conscient de mon privilège que je vais emmerdez-moi dans la rue, ça marche pas. Donc voilà. Et après, je me dis que c'est pas mal aussi de prendre des vacances. Il fait chaud à Paris, ça pue, c'est la pollution. Partez, allez respirer, déconnectez-vous de Twitter.
Ouais, c'est
et voilà. Alors, j'ai la chance que mon propre métier. C'est une réflexion constante et, sur des engagements aussi, parce qu'on ne fait pas des études de genre, enfin je crois pas, de manière froide, inintéressée politiquement, etc. Les études de genre sont nées dans le creuset du féminisme, donc c'est né d'un mouvement social, enfin je veux dire, donc on est aussi engagé. Donc j'ai de la chance de pouvoir respirer aussi entre la nourriture
intellectuel, en lisant des trucs, en écrivant des trucs, en essayant de réfléchir sur mes propres pratiques, puis en allant agir aussi. Mais ça, c'est sûr que c'est un privilège aussi de chercheur, c'est de pouvoir être payé pour ça. Tout le monde ne peut
ou
pas être payé, avoir du temps pour ça.
Ou d'être spécialisé dans les études de genre, ou t'as le temps aussi voilà, de réfléchir à ça, bien sûr.
Alors que j'imagine que quelqu'un qui est à l'usine et qui fait 8 heures par jour, de 6 heures à je sais pas quelle heure, quand il rentre chez lui, il n'a pas le temps d'ouvrir un livre de Haraway. En plus, c'est en anglais. Donc en fait, il faut pouvoir lire l'anglais, etc. Et se dire, tiens, je vais lire Donna Haraway, c'est gratos.
Y a un truc que tu as dit là qui m'intéresse beaucoup, j'arrête pas de poser la question et tout, mais tu sais, c'est... toi, tu peux dire tout tranquillement comme ça, voilà, j'ai des privilèges, j'en bénéficie, ça va jamais disparaître dans ma vie. Enfin, sauf s'il n'y a plus de patriarcat dans 2 ans, là, mais sinon, voilà. Et donc, en fait, moi, ça me semble simple à assumer, cette phrase-là. Alors, je ne suis pas un mec, mais par exemple, en tant que blanche, de dire, voilà, je suis blanche. En l'occurrence, dans mon cas, je suis blanche, je suis hétéro, je suis bourgeoise, je suis parisienne. Et donc, je bénéficie à ce titre de tout un tas de privilèges que je ne peux pas changer. Ça veut dire que pour moi, ça va être plus facile d'avoir un appartement, qu'on ne va pas me discriminer... au travail, c'est que je vais pas me faire arrêter par la police, que je vais pas me faire contrôler, etc. Bon, et en fait, je comprends jamais pourquoi ça pose tellement de problèmes à des gens de reconnaître ça. Les mecs deviennent fous. Enfin, il y a plein de mecs qui deviennent fous quand tu leur dis ça, en fait. Bah, et toi,
oui,
tu dis,
mais en même temps, tu vois,
toi, voilà.
Je t'écoutais raconter ces trucs-là et je me dis que, étant donné que c'est quand même assez structurel, que c'est pas des monstres tous ces gens. La preuve,
oui, c'est très important.
Ça pourrait être moi, quoi.
Ça,
ouais. Tu vois, ça pourrait être moi.
Mais alors, ok, donc tu dis ça tout tranquille et tout, d'accord, mais pourquoi, à ton avis, et je te pose aussi la question, qu'est-ce qu'on peut dire aux mecs qui ne supportent pas, en fait, cette idée-là, et qui disent « Non, moi, ça ne me concerne pas, c'est les autres. » J'ai reçu aussi plein de mails comme ça, de types qui disent « C'est très intéressant, votre émission, merci beaucoup, ça me permet de mieux comprendre les hommes de mon entourage. En revanche, je ne me reconnais pas du tout dans tout ce que vous décrivez, ça ne me concerne pas. »
Oui, c'est le hashtag « Not all men ».
Tout à fait, pas tous les hommes. Alors, que répondre ? Que faire par rapport à ça ? Pourquoi c'est tellement insupportable, en fait, pour certains ?
Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui se complaisent dans une bonne image. Je fais de temps en temps à bouffer, je vais chercher les mômes à 4h30 de temps en temps à l'école où j'ouvre la porte à une femme et donc je suis un féministe. Puis c'est de bon ton à l'heure actuelle. Enfin, tu vois, il y a une espèce de truc, il faut l'être, quoi. Enfin, donc.
Ouais, là, c'est vrai qu'on est confronté à un autre problème qui est l'affichage féministe, alors qu'en fait.
Moi, les paroles, finalement, j'ai envie de dire, on peut se les mettre de côté. Gardons les actes, quoi, pour le coup. Et puis les paroles, on en a eu beaucoup, importantes. MeToo, hein, bien évidemment, mais aujourd'hui, ce que je le redis, c'est il faut des actes. Et à un moment donné, quand un mec effectivement te parle comme ça, tu peux aussi lui dire, bon, bah, concrètement, quoi.
Ouais.
Concrètement, qu'est-ce que tu fais, quoi. Et concrètement, c'est un peu plus.
Sur la question des actes et ça veut dire des politiques publiques aussi qui font ça. Du coup, j'en profite pour donner une information que vous pouvez aussi garder et répéter, c'est que en fait, il y a pas de budget pour l'égalité entre les hommes et les femmes en France. Là, les associations dont je vous ai parlé, par exemple l'association En Avant Toutes, il y a assez peu d'assos qui peuvent recueillir la parole des femmes qui ont été victimes de violences sexuelles. Il y a le 3919, qui n'est pas un numéro d'État, hein, qui est une association. Il y a le collectif féministe contre le viol, qui gère aussi une ligne d'écoute gratuite. Et il y a En Avant Toutes, qui gère un chat. Et en fait, ces assos-là, elles fonctionnent avec des bénévoles et elles ont très peu de budget. Elles ont encore vu leur budget baisser cette année. Le chiffre que vous pouvez retenir, c'est que l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est 0,0066% du budget de l'État. C'est le plus petit budget, en fait. À titre de comparaison, en Espagne, proportionnellement au nombre d'habitants, ils dépensent 3 fois plus. Au Canada, ils dépensent 14 fois plus. Voilà.
Tu peux rebondir là-dessus parce que justement, enfin.
Et après, on prend une question dans le public, donc préparez-vous.
C'est sans doute le réflexe du sociologue, mais comme c'est pas qu'une question de psychologie, de personnalité, c'est aussi une question de structure.
Ça, de masculinité toxique et tout, mais je suis un peu avec ça, genre comme si il suffisait juste de changer des comportements et tout. C'est pas ça en fait, c'est pas que ça.
Voilà, c'est un peu comme l'écologie. Enfin, hier, je suis rentré à Paris du Nord, du Grand Nord, et je me suis dit mais c'est horrible, tous ces connards qui prennent leur bagnole, ils sont tout seul dans une bagnole, ils mettent la clim à fond en plus, et on va tous mourir du cancer. Enfin, j'ai eu un moment d'angoisse. Ils pourraient tous faire un effort. Mais en fait, on sait très bien que si on fait tous un petit effort, et d'ailleurs, parfois, on est culpabilisé sur l'écologie, mais couper l'électricité, je sais pas quoi, sauf qu'on pourra faire tous les efforts. Moi, je mange bio.
Tu coupes l'eau quand tu brosses les dents.
Espèce de caricature d'un certain style de vie. Mais, enfin, j'essaie de manger bio. En fait, il y a aussi un enjeu structurel. Et donc ça, la structure, personne en tant qu'individu ne va pas la prendre en charge. Enfin, vous n'allez pas créer un changement sociétal massif avec juste en changeant. Vous le voyez bien pour l'écologie, en arrêtant de prendre votre voiture, parce qu'il y aura toujours le connard d'à côté qui va prendre sa voiture. Bon, eh ben, il faut changer.
Il y a peut-être des automobilistes là dans la salle. C'est pas. Vous
êtes... Oui, pardon.
Mais quand même.
Non, mais en fait, vous comprenez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'était une réaction, mais en fait, ils font ce qu'ils peuvent, tous ces gens. Et donc, c'est un peu la même chose sur ces questions-là. Et c'est pour ça que je suis. Très aussi, j'ai l'air de le dire facilement, mais en fait c'est aussi un mal, c'est que on est tous un peu complices des violences masculines à l'égard des femmes et aussi des minorités sexuelles quand on est un homme, qu'on le veuille ou non, en fait, puisqu'on bénéficie des avantages que ça produit.
Quels avantages ça produit ?
Eh ben, le type qui te menace et qui te traite de salope, il te fait peur et il affirme une masculinité supérieure aux femmes, et moi j'en profite. Quand je vais rentrer ce soir chez moi, je suis bien sûr de pouvoir marcher tranquillement. Je pourrais invectiver les automobilistes connards à côté de moi, mais j'aurai personne qui va me suivre et qui va essayer de me menacer. Et ça, c'est un privilège par rapport à d'autres. Tu vois ce que je veux dire ?
Est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui, il y en a plein. Alors, Louisa.
Oui.
Bonjour, Louisa.
Bonjour. Peut-être une question et proposition. Titiou Lecoq avait écrit un livre qui s'appelle Libérée, et elle a fait en fait du name and shame en balançant simplement comment son mari se comporte à la maison.
Oui, elle l'appelle Monsieur Chaussette car il ne ramasse pas ses chaussettes.
Voilà, mais il a été beaucoup plus loin dans la. Enfin, c'est un très mauvais père, vraiment. Un mauvais mari. Enfin, c'est bien expliqué. Il faut lire le livre.
Alors, on l'a invitée hein, dans le troisième épisode des Couilles sur la table. Elle explique ça, etc. Que c'est une lutte en fait, permanente pour la répartition du travail domestique, et c'est une lutte qui concerne quasiment tous les ménages français, puisque ça c'est pareil, les chiffres ont quasiment pas bougé. Hein. On estime que en moyenne les hommes font 8 minutes en plus de tâches ménagères par rapport à il y a 20 ans. Donc voilà. Et donc quelle est ta question ?
Alors du coup, charge mentale tout ça, est-ce qu'on pourrait pas toutes et tous faire du name and shame avec toutes les personnes qu'on connaît autour de nous qui sont juste nulles ? Et bah du coup, ils auront plus d'amis parce que qui veut fréquenter ces gens-là ? Et peut-être qu'ils seront obligés de se bouger un peu. C'est une proposition. Et question.
Mais donc quoi, t'étais chez les gens, tu regardes ce qu'ils font et tout
Non, mais chacun le fait. Moi, je le fais, je sais pas, avec mes frères. J'ai 5 frères, ils sont tous nuls. Bah voilà, je peux le...
Et donc ils changent, ils travaillent plus après ?
Et bah, il y a un petit effort. C'est tout. Il y a une prise de conscience, pas sur les 5. Il y aura un ratio, forcément. Mais voilà, peut-être, c'est une proposition.
D'accord. Bon, mais écoute, merci pour cette contribution. Vous vouliez poser une question ?
Vous parliez un petit peu plus tôt des actes, vous disiez concrètement d'accord. Moi j'avais une question aujourd'hui sur Twitter, je pense qu'on a à peu près les mêmes timelines militantes en tout cas.
Les mêmes gens qu'on suit,
ouais.
Qu'on retweet, ouais. Etc. Okay.
On voit régulièrement des hommes reprendre ce que les féministes ont dit déjà 500 milliards de fois et se faire célébrer en disant voilà, c'est ça les vrais alliés, etc. bon, voilà.
Sick of being upsold at gyms?
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum.
At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.
Les hommes sur le plateau.
Oui, non, mais mais du coup, pour moi, ça, c'est pas être un allié et c'est pas des actions concrètes. Et on me pose régulièrement la question de, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit faire comme action concrète pour aider le mouvement quand on peut pas, quand on a un métier à côté et qu'on peut pas, donner sa vie au militantisme.
Bah, c'est super parce que c'est exactement ce que j'allais vous demander. Comment être de bons alliés?
Écoute, on va pas se gosser. Enfin, moi, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense par du principe que tout le monde peut merder déjà très clairement et en avoir conscience. Et puis que, puis l'image qu'on peut avoir, ce qu'on représente, être conscient déjà qu'on représente le patriarcat pour le très clairement et que du coup on représente ce système. Donc déjà, c'est l'intégrer.
Moi, j'ai des suggestions. Par exemple, on peut donner de l'argent. Voilà, on peut donner de l'argent aux associations. Déjà, truc pour être un allié.
Tu peux t'engager aussi. Hein, t'engager,
Mais si tu n'as pas de temps, tu peux donner de l'argent.
On peut donner de l'argent, l'argent, des fois, ça dédouane aussi un peu, je trouve.
Oui, c'est vrai. On peut se la boucler.
On peut, ça c'est intéressant.
Ça c'est bien. Ouais. Ça veut dire en tant qu'allié, on peut se taire, écouter les femmes, etc.
Ça j'ai appris à le faire. D'ailleurs, du coup, dans les réunions maintenant, je dis plus rien. J'ai des collègues femmes et du coup, je me suis, je fais hyper gaffe au interrupting. Et des fois, en fin de réunion, je me dis.
C'est le fait d'interrompre les femmes en train de parler.
Et du coup, je fais tellement gaffe qu'à la fin de réunion, j'ai rien dit et j'étais un peu emmerdé. Du coup, j'ai envoyé des mails à tout le monde, mais bon, écoute.
D'accord. Ok.
Ça fait avancer le chemin, mais non, mais c'est vrai que oui, c'est ça, être vigilant sur ce genre de choses. Je le bosse moi, avec les jeunes, c'est intéressant. Je reprends les sujets qu'on a tous vus, les petits bouts de Pascal Pro qui fait du interrupting, qui fait du mansplaining, qui fait enfin tous ces concepts-là.
C'est un journaliste qui sévit actuellement sur les vieilles chaînes de télévision.
Oui, c'est vrai. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant à travailler avec eux, quoi, parce que du coup, ils s'en rendent pas compte de ça et c'est quand même assez présent. J'utilise pas mal aussi quand c'est Maxime Amou à Roland Garros qui avait pris la jeune journaliste comme ça, qui l'avait serré.
Je crois qu'il l'avait même.
Oui, il avait essayé de l'embrasser.
Il avait essayé de l'embrasser. Ouais, c'était une tentative d'agression.
Et du coup, quand ils le voient comme ça, que tu le sors un petit peu de toute l'émission, du concept, etc., ils se disent ah ouais, là quand même c'est. Et puis ils se disent tous, si ma mère était journaliste et puis que la voyait à la télé se faire choper comme ça, ça irait pas, quoi. Et donc du coup, il se passe un truc quand même, ça avance, ça fait réfléchir. Voilà, c'est des petites choses au quotidien où on se questionne sur notre posture et notre position et la place qu'on doit avoir. Voilà, quoi, déjà, c'est déjà énorme, j'imagine.
Il y a une question qui revient souvent, qui est qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, voilà, est-ce qu'on considère que ça fait partie de la lutte de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous et des gens qui ne sont pas féministes ? Là, je vois plusieurs questions qui sont posées là-dessus en ligne. Thomas Messias, qui est un journaliste féministe, qui a un podcast qui s'appelle Mansplaining, nous demande par exemple est-ce que tenter de discuter avec les masculinistes, est-ce que ça sert à quelque chose ? Donc les masculinistes, ce sont ceux qui pensent que les hommes sont opprimés, que la virilité vraie n'existe plus, que les féministes ont pris le pouvoir, le post-féminisme, etc. Est-ce que ça sert à quelque chose de discuter avec ces gens-là ? Moi, j'ai répondu pour ma part, je pense que ça ne sert à rien, en fait. Mais il y a d'autres. J'ai rencontré d'autres féministes qui pensent que pas du tout. Je pense à Valérie Ré-Robert, par exemple, qui dit « Mais moi, je suis pas là pour convaincre ceux qui sont déjà convaincus, en fait. Moi, je suis là pour expliquer aux hommes qu'il faut qu'ils arrêtent de violer. Et c'est ça, mon taf. » Et elle le fait, elle se bat sans arrêt, tous les jours, sur Twitter, etc., elle le fait. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je rajoute une question à celle-ci, qui est les masculinistes, mais aussi, qu'est-ce que tu fais dans ton cercle familial ? Qu'est-ce que tu fais de tes grands-parents racistes, homophobes, de ton frère misogyne, de tout ça ?
Sur la question.
Alors qu'est-ce qu'on en fait ?
Ouais, qu'est-ce que j'en fais ?
Qu'est-ce qu'on en fait ?
Nous, chez les grands-parents, il y en a plus beaucoup, donc du coup, ça, la question se pose plus. Mais moi, c'est le cas de mon métier en fait, d'aller justement discuter et d'aller travailler sur les représentations et puis de faire changer un peu les lignes. Et quand je dis ça, c'est pas ça m'a fait bouger beaucoup énormément. Les jeunes m'ont fait évoluer beaucoup aussi, m'ont amené à réfléchir. Ça marche pas que dans un sens, ça marche dans les deux, sur la religion, sur plein de choses. J'ai décalé pas mal de choses. Moi, au début, j'étais là, bon voilà, on parle pas de religion, c'est chiant, la laïcité, etc. Puis en fait, ouais, non, je dis, c'était complètement idiot. En fait, c'est une posture aussi, et on peut le prendre en compte, et parce que c'est important pour la personne concernée à ce moment-là, et lui dire, ok, on fait un petit pas de côté, si tu veux, on évite de parler de sexualité, on parle de relation à l'autre, est-ce que ça te va ? Et puis là, ça roule. Enfin, je pense que on peut, en faisant des petits pas de côté comme ça sur tous les sujets, on peut arriver à déconstruire un peu, à bousculer un peu les représentations. Et j'ai envie de dire, le jour où je crois appuyer à ça, j'arrêterai ce boulot, parce que c'est-à-dire que je serais plus dedans, quoi. Et voilà, après tu te prends des râteaux toi-même, des fois t'es à côté de la plaque, hein. Moi ça m'est déjà arrivé que sur mes chroniques on me dise ah bah c'est là, il y avait une partie un peu sexiste que je voyais pas du tout, mais qui inconsciemment qui était présente, bien sûr. Mais à ce moment-là tu la relis et puis tu te questionnes pourquoi, et puis voilà.
Moi je dirais volontiers que être allié, c'est rester allié. Ça veut dire c'est se contenir pour ne pas prendre la place, puisque naturellement, en tant qu'homme, on a toute la place. Et donc, il faut se contenir, et à des moments, on ne prend pas la place, on laisse la place, et à des moments aussi, on y va. Et peut-être que les enjeux de pédagogie qui épuisent un certain nombre de femmes, voire qui les font subir un espèce de retour de violence, je pense à Twitter, quand certaines militantes font des trucs et se prennent 10 000 shitstorms, ça s'appelle dans le langage...
Des tempêtes de caca.
Des jeunes.
Voilà.
C'est horrible.
Ouais. Eh bien, ça peut être aussi notre job d'allié que de prendre cette part du job qui est de faire de la pédagogie. Et je dirais une troisième chose aussi, si je suis là et si j'ai ce discours-là, c'est aussi que des gens, et notamment des femmes, ont fait de la pédagogie avec moi. Sinon, je ne suis pas né féministe, on ne naît pas féministe, on le devient. Et surtout quand on est un homme. Enfin, on ne naît pas pro-féministe, on le devient. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont fait... Et j'ai pu bouger. Enfin, voilà, donc... C'est aussi un job à faire, mais peut-être pas tout le temps, tout le monde,
ouais,
ou
c'est
tout
ça,
le temps, les mêmes personnes.
Ouais.
Et ça, effectivement, ça peut être notre job d'allié pro-féministe que d'aller voir les types les plus chiants et de leur dire, bon, bah, écoute, je vais t'expliquer la vie.
Et aussi, les... non, et
pourquoi
aussi,
elle
ne
veut
que
pas te répondre,
ça rejoint un peu votre question sur, en fait, quand des hommes pro-féministes retweetent des trucs que les féministes ont déjà dit 12 000 fois, bien sûr, en fait, tu te dis, mais vas-y, ils sont appropriés tout le taf et tout, c'est eux qui récoltent les lauriers, c'est insupportable. Et à la fois, moi, d'un point de vue pragmatique, je me dis, bah, peut-être que ces gars-là, les autres gars, ils vont plus les croire, puisque de toute façon, quand t'es sexiste, la parole d'un homme, elle a plus de valeur. Donc, ok, ils ont qu'à répéter, etc. Mais oui, après, il y a aussi ce que j'entends beaucoup, c'est en fait, tu décides du temps et de l'énergie que tu as à donner à cette activité militante. Tu décides ou pas si ça en vaut la peine. Moi, je pense qu'il y a des gens, tu sens très bien quand ça sert à rien de discuter avec eux parce qu'ils sont dans un autre délire. Je pense là aux masculinistes, c'est compliqué, quoi. Genre, ils sont vraiment dans un autre. Ils sortent des statistiques qui n'existent pas, ils inventent des faits historiques, enfin, c'est là, c'est... Voilà, mais peut-être qu'il faut s'en occuper, mais...
Oui, pardon, je te man-interrupting.
Vas-y, tu m'as man-interrupté.
Mais il ne faudrait pas qu'on se concentre... Ça fait vraiment dernière leçon, ce que je vais dire. Il ne faudrait pas qu'on se concentre sur les masculinistes parce qu'ils sont impressionnants, parce qu'ils sont la caricature de tout ça. Il me semble que dans la vie ordinaire, avec les gens ordinaires qu'on aime bien, qui ne sont pas des monstres, il y a plein de trucs à faire, à bouger, à réformer, à faire prendre conscience qu'en fait, effectivement, la question des chaussettes, c'est con, hein, mais ça passe par là. Et c'est l'usure. Les chaussettes, c'est l'usure. Le masculiniste qui fait son coup d'éclat et qui nous fait chier... C'est une fois, alors que le coup des chaussettes, c'est tous les jours. Donc voilà, je me dis qu'il ne faudrait pas focaliser sur les mecs les plus extrêmes de la domination masculine et que ça vaut le coup aussi de transformer, y compris pour des questions de sécurité affective, mentale, etc., autour de soi, les gens avec qui on vit au jour le jour. Voilà. Mais
donc,
encore une fois, il y a des moments...
Ton pote que tu aimes bien... Et bah, t'as le droit de. Tu peux prendre le risque de te fâcher avec lui, par exemple.
Ouais, et puis de lui envoyer un truc, et puis là, il fait waouh, 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 waouh. Alors, je vois bien comment ça peut marcher aussi. Il peut être vexé, parce qu'en fait, il est vexé dans son orgueil d'avoir fauté. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois, de me dire merde. Parce qu'en plus, traînant dans des mondes où. Pardon. Traînant dans des mondes où la faute peut être vite.
Ah, tu veux dire que dans les milieux féministes, c'est encore plus grave
On essaye de faire attention et on n'est pas toujours très bon. Bon, ben voilà, et ça vaut le coup aussi de tiquer ces gens-là, plutôt que d'aller chercher le vilain masculiniste qui va faire...
Qui raconte n'importe quoi et qui est complètement...
Oui, oui.
Oui c'est vrai.
Et voilà, et on peut passer le relais aussi. On peut dire, moi, j'en peux plus. Une des premières missions aussi, je pense, d'une féministe ou d'un pro-féministe, pardon, j'aime pas trop dire... c'est aussi de se protéger. Enfin, je veux dire, c'est comme quand vous allez sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Votre première mission, on apprend ça quand on fait le truc de secouriste, c'est d'abord d'assurer sa propre sécurité. Bah, si vous sentez que vous êtes en train de vous mettre en danger mentalement, etc., passez le relais à quelqu'un d'autre, quoi.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Oui, j'en vois deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
J'avais une question sur le chiffre que vous donnez, donc sur la part du budget consacré à l'égalité homme-femme entre la France et l'Espagne. On voit bien que la France est bien en retard. J'ai l'impression que sur tous ces sujets-là, on est quand même assez en retard par rapport aux autres pays européens.
Oui, ça dépend lesquels. La Suisse, par exemple, c'est pas très glorieux. Enfin, oui. Mais oui, par exemple, par rapport à l'Espagne, ouais.
Ouais. Et par rapport aux pays scandinaves ou voilà, à d'autres, à l'Allemagne aussi, je pense. Comment on explique ce retard ? Est-ce que c'est culturel ? Est-ce que dans un podcast, vous parlez beaucoup de la drague à la française, l'amour à la française,
ouais, la séduction à la française,
voilà,
la
qui pèse encore beaucoup. Est-ce que c'est cette raison ? Vous en voyez d'autres ? Enfin.
Ben, je vais avancer à faire que des hypothèses parce que j'ai pas étudié cette question-là, mais ce serait, enfin, c'est passionnant comme question. Pourquoi est-ce qu'on est tellement en retard dans les politiques publiques féministes ?
Il y a beaucoup d'annonces. C'est très classique, hein, finalement, dans ce pays. Hein. Politiquement, on fait plein d'annonces. Et puis, nous, la réalité, on la voit sur le terrain. Globalement, que tu travailles sur la réduction des risques en drogue ou que tu travailles sur la sexualité ou la vie affective, les moyens, ils diminuent d'année en année. Et très clairement, on élimine les gens et on élimine les associations. Et puis, mais par contre, on fait des tas d'annonces. Ça, c'est un grand classique.
Bah là, je ne suis pas sûr que ce soit que la France. C'était la grande cause du quinquennat, quand même, la lutte contre les violences faites aux femmes. Bah, oui. Voilà, mais il n'y a pas d'argent.
Sauf qu'il est en train de casser socialement. Enfin, il, on sait de quoi je parle. Voilà, donc c'est quand même la réalité aussi du terrain. C'est-à-dire qu'entre l'annonce et ce qu'on peut amener en termes de financement, mais aussi d'énergie et de soutien, voilà quoi, c'est... Je pense que c'est les années passent et puis tu sais, t'as des effets d'annonce comme ça. Bon, en ce moment, on est dans l'après-MeToo, le féminisme, voilà, etc. Et puis ils vont passer peut-être à autre chose un peu plus tard. Mais moi, je crois qu'il faut qu'on continue, nous, effectivement, sur le terrain, à faire notre taf et puis à se mobiliser et puis à trouver nos propres ressources au final, quoi. Parce que...
Oui, mais enfin, attends, tu peux quand même exiger que tu payes des impôts, que l'État mette beaucoup d'argent dans les politiques publiques, en fait, à un moment, contre les violences faites aux femmes.
C'est vrai, mais ils ont dépensé beaucoup dans les LBD récemment et...
Donc je sais pas, en fait j'en sais rien, je sais pas pourquoi on est tellement en retard, mais bonne question, je sais pas. Jocelyn, t'as une idée?
Non.
Bon, bah voilà, et bah écoute, on laisse la question en suspens, j'en sais rien, mais très bonne question et j'espère qu'on le traitera.
Je suis sûr qu'il y a plein d'études sur les questions de politique publique, voilà, mais je n'ai pas d'idée.
Est-ce qu'on prend une autre question? Ouais. Ah oui, bonsoir.
Bonsoir. Je trouve qu'il y a un sujet qu'on n'aborde jamais qui est assez tabou, c'est-à-dire qu'on va beaucoup parler de la façon dont on doit éduquer les hommes, comment ils doivent se comporter, mais finalement, on ne dit jamais comment une femme aussi, elle doit être éduquée par rapport à ça. Parce que moi, je me dis, je pense par exemple à ma mère, la façon dont elle a éduqué mes frères, à quel point en fait elle les plaçait en fait dès le berceau, dès la naissance en fait dans un positionnement en fait de privilège. Et je veux dire, c'était ma mère, c'était pas mon père en fait. Et je veux dire, au quotidien, je vois quand même beaucoup de femmes et donc de mères qui vont céder plus facilement par rapport aux caprices de leurs petits garçons. Je vois quand même beaucoup de mes amis qui veulent pas faire l'amour, mais qui vont quand même céder par rapport à leurs petits copains. Et en fait, moi, je me pose vraiment cette question sur... j'ai l'impression que finalement, on traite un sujet d'ordre... Vous parlez de l'espace public, mais qui est tellement ancré dans les foyers, en fait, qui est quelque chose presque de l'ordre, presque du karmique, qui est quelque chose d'ancestral. Et je vois pas en fait comment du jour au lendemain on peut demander à une personne où sa mère elle lui a toujours dit bah oui, elle lui a toujours tout servi, okay. Elle lui a nettoyé les fesses, comment du jour au lendemain, enfin je veux dire je suis un petit peu alors, je suis féministe, mais je suis un peu partagée par rapport à ça.
Ouais, je comprends ta question et c'est des débats qui sont récurrents, etc. Il y a plein de trucs, en fait. Il y a déjà prendre bien conscience que la misogynie, elle peut être intériorisée par les femmes aussi. Et donc, toi, t'es éduquée, tu vois, aussi en tant que femme, à l'idée que tu es inférieure aux hommes et que ce qui vaut le coup dans la vie, c'est les hommes. Mais ça, je veux dire, ça se retrouve même dans les relations amicales. Combien de meufs vont considérer que, en fait, leur relation amoureuse avec leur gars, elle est beaucoup plus importante que toutes les relations amicales qu'elles ont avec leurs meilleurs amis, même depuis 15 ans. C'est... Bon, moi, ça me pose question, par exemple, ce truc-là. Après, je suis toujours contre... En fait, on a aussi une tendance à toujours rejeter la faute de l'éducation sur les mères. Puis, en fait, ça, elles ont bon dos, quoi, aussi. Là-dessus, et en fait, comme ça, c'est ce que Titu Lecoq rappelle aussi tout le temps, c'est que, en fait, il y a la question des pères, quoi. Quel exemple ils donnent, comment, pourquoi. Enfin, ça, c'est aussi un truc important. Et chacun sa part, quoi, par rapport à ça. Donc, c'est pas de dire. Enfin, en fait, c'est sûr que les masculinités, ça peut jamais être pensé comme si c'était complètement séparé des conditionnements féminins. Jamais, en fait. On interagit tous, tout le temps, les uns avec les autres, etc. Donc, je me dis aussi, peut-être, en tant que féministe, si on croit à ça, si on a la marge de manœuvre pour l'être, parce que là, par exemple, vous citiez le cas d'une femme qui va céder parce que son mari va insister pour avoir des relations sexuelles, mais là, il faut bien analyser la relation de pouvoir qui existe. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Pourquoi les meufs, elles cèdent? Ça peut être des calculs du genre, OK, il va me saouler pendant 2 heures, en fait, j'ai besoin de dormir. En fait, je vais céder parce que c'est ça, ou alors je vais pas dormir pendant 2 heures et je vais être crevée demain matin, enfin... Hmm, bah, la misogynie, bien sûr, il y a de la misogynie intériorisée chez les femmes. Être une femme ne vaccine pas contre le sexisme, en fait. Pas du tout. Tu voulais dire un truc, Jocelyn ?
Mais c'est une structure sociale, oui, bien sûr, dans laquelle on est pris, prise.
Toutes et tous.
Et on ne peut pas s'en détacher comme ça. Enfin, donc c'est un peu triste comme constat, mais en même temps...
Une autre question ?
Bonsoir. Moi, j'avais envie de revenir sur cette idée de passer à l'acte et sur ce que peuvent faire les alliés. Moi, j'aimerais les entendre davantage sur tout ce qui est plaidoyer politique. C'est-à-dire que typiquement sur les féminicides, ce que tu soulignais très justement, on sait que les féminicides coûtent aux contribuables français 2,5 milliards d'euros par an.
Okay.
Qui suffirait d'un milliard d'euros par an pour prévenir tout ça. En fait. Et que donc, on a tout intérêt à faire de la prévention. Ça, c'est des chiffres qui vont être très souvent portés par les féministes, etc.
Je les ai jamais entendus, donc du coup, je te crois, mais tu sais la source de...
C'est le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes qui le dit très clairement. Voilà, et je trouve que c'est dommage qu'on n'entende pas les mecs sur ces questions-là. Et par rapport à la politique en général, moi, mon élément de réponse, c'est de me dire qu'en fait, ils n'ont effectivement aucun intérêt à ce qu'il y ait une éducation au consentement, etc. Quand on voit les rapports de domination des hommes politique, notamment sur les femmes. Je pense à l'Assemblée nationale, une collaboratrice sur 5 victimes d'agressions sexuelles. Aucun média, et ça renvoie aussi à la question plus large du traitement médiatique, mais aucun média n'a posé la question qui fâche, à savoir, s'il y a une collaboratrice sur 5 qui a été agressée sexuellement, ça fait combien de députés agresseurs?
De toute façon, retourner la question, ça provoque toujours... Enfin, je vous laisse faire l'effet, je vous laisse tester l'effet dans les soirées, les dîners, quoi. Quand vous expliquez, en fait, on est entouré de violeurs, bonne ambiance. Enfin, ouais. Personne n'a envie de voir ça, c'est sûr.
Mais du coup, voilà. Enfin, moi, clairement, j'aimerais pouvoir entendre les mecs, et je sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais...
C'est plus un souhait qu'une question, en fait.
Ouais, là-dessus. C'est ça, mais je veux bien leur regard sur ça.
Je dis ça parce qu'en fait, il nous reste pas beaucoup de temps. Donc, du coup, peut-être qu'on prend une autre question avant de monsieur.
Bonjour. Effectivement, moi, j'essaye de discuter avec mes amis, surtout sur les questions d'humour et d'humour sexiste, et parce qu'il arrive aussi qu'il y ait de l'humour sur le viol, et qui sont des choses toujours un peu compliquées. Mais on m'oppose très souvent l'argument du « on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ».
Cette phrase, vas-y, on peut plus.
J'ai du mal à... Je suis pas d'accord, mais je sais pas comment réagir à ça, et souvent c'est en plus souvent un mur, et donc effectivement, est-ce qu'il y a des...
Qu'est-ce qu'on répond à quand on dit hey, voilà. Tu sais, moi je vais te dire un truc, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, d'accord? Là tu dis quoi? Moi je veux pas en général, je crois que j'ai pas de... au revoir. Mais bonne question, je sais pas, tu réponds quoi?
Écoute, moi, j'utilise pas mal de fois des arguments pour déstabiliser, c'est-à-dire que la personne en face de toi, quand elle te dit quelque chose, elle sait pas toujours en quoi t'es concerné ou pas. Moi, je me souviens très bien d'un prof en arrivant une fois dans un lycée qui me dit « Ah, voilà monsieur Sida !» Je dis « Bah ouais, je suis séropo depuis 20 ans. » Et là, le mec s'est effondré, genre, et là, je lui ai montré que sa blague, elle était un peu à côté de la plaque, parce que monsieur Sida, quelqu'un qui est séropo ou pas, quand tu connais pas, t'en sais rien, et que je trouve que c'est assez violent, pour le coup, de recevoir quelqu'un comme ça. Donc du coup, quand t'as quelqu'un qui fait une vanne, effectivement, sur le viol, tu peux aussi lui expliquer que il sait pas quoi autour de lui qui l'a, et que peut-être qu'il y a une personne qui est concernée et que c'est pas la même chose, et que du coup ça peut peut-être mettre un peu plus de poids, parce qu'on a tendance à balancer un peu les choses comme ça légèrement, et on se rend pas compte de tout ce que ça veut dire derrière, et je pense qu'on peut tous le faire, hein. Moi je trouve que je crois beaucoup au témoignage, en fait, aussi, et moi je joue un peu là-dessus des fois avec les jeunes, hein. J'invente des histoires, hein, quand s'il faut, ma femme était malienne, par exemple, ça m'arrive une fois dans une classe, j'ai oublié que l'année d'après j'avais des redoublantes, il m'avait dit ah mais c'est vrai, parce que je leur dis c'est pas grave, l'important c'est de dépasser un stade, c'est-à-dire que si ça bloque sur une discussion, juste un petit truc, t'as fait de la tôle pendant 6 mois sur les problématiques de drogue, bon c'est ce qui est faux parce que je pourrais pas faire ce boulot là, mais qu'importe, ils vont pas calculer jusque là, mais d'un seul coup le petit point qui coinçait fait que tac, tu vas passer au stade suivant et là tu peux travailler. Alors bon, franchement, un petit mensonge en passant, histoire de faire avancer les choses, c'est pas dramatique quoi.
Ça vous va comme réponse ? Et Jocelyn, tu veux dire un truc ?
Oui, moi je vais peut-être réagir du coup à la question de l'efficacité, là, est-ce que la France est en avant ou en retard, et à la question sur les politiques, ont-ils intérêt à changer les choses ? Mais bien sûr que non. Et c'est là où, enfin, aujourd'hui on célèbre les 50 ans de Stonewall avec demain ça sera une Gay Pride avec des superbes entreprises
qui vont... Les 50 ans de Stonewall, il faut rappeler Stonewall qui est un bar... à New York, dans lequel qui était fermé régulièrement par des policiers parce que c'était un bar de rencontres gays et lesbiens.
Ouais, trans aussi.
Et trans, et donc qui a été attaqué par les policiers. Et le jour, il y a 50 ans, les clients du bar ont décidé que c'était fini, en fait.
Oui.
Et voilà. Et donc il y a eu des émeutes ensuite.
Voilà. Et ben, en fait, c'était des émeutes. Je veux dire. Et aujourd'hui, on célèbre ça avec un joli défilé où il y a la BNP. Non, je ne sais pas s'il y a la BNP, mais il y a Google, voilà, tout ça. Enfin, je veux dire, la politique, c'est et tout est lié. Enfin, le capitalisme, ça fonctionne avec ça. Enfin, donc voilà, je ne vais pas vous dire de voter bien parce que je ne vous dirai pas ce qu'il faut voter, mais enfin, c'est un combat qui est extrêmement politique et ça peut pas être l'égalité. Femme-homme ne pourra pas se gagner avec des petites rustines sympathiques en disant non mais c'est pas bien, franchement les gars, vous abusez.
Non, en fait c'est pour ça qu'on dit souvent que étudier les masculinités et les études de genre, en fait ça touche à absolument tous les domaines, en fait il n'y a aucun domaine de la vie qui échappe et en réalité tous les sujets sont liés sans arrêt. C'est pour ça qu'il faut répondre ça aussi quand on vous explique par exemple que le combat pour l'écriture inclusive c'est vraiment n'importe quoi, pourquoi c'est un problème que les filles aient que des poupées pour jouer, mais franchement t'as pas autre chose à faire. Enfin, il y a le truc aussi que quand on est militant féministe, on explique toujours, il y a toujours quelqu'un pour t'expliquer que c'est pas le bon combat, quoi. Tu te trompes de combat, il y a un truc et tout, alors qu'en fait tout est lié tout le temps. Et quand tu regardes le monde avec les lunettes que te donnent les études de genre, tu vois tout complètement différemment, en fait, et tu te rends bien compte que la façon dont sont organisées les entreprises, ça a un lien. La façon dont l'État décide ou pas de mettre de l'argent dans les crèches, ça joue directement, en fait, sur l'égalité homme-femme. La façon dont sont construites les rues, c'est ça aussi. Donc.
Et en un sens, je veux bien qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a une culture française, machin truc. Mais enfin, regardons les budgets de l'État et regardons les milliards qu'on est capable de foutre dans l'armée. Enfin, le milliard, c'est 1,2 milliard, je crois, dans le service national là, universel. Pour faire quoi? Ouais. C'est qu'il y a des choix politiques. Il y a des choix politiques, c'est tout. C'est que c'est pas important. Et donc, nous, en tant que peuple qui avons soi-disant le pouvoir, on peut très bien se révolter. C'est pour ça que je faisais une référence à Stonewall. C'est que c'est d'abord et avant tout une révolte de gens qui risquent leur vie. C'est-à-dire qu'ils sont tapés par des flics et qu'ils en ont marre d'être tapés par des flics. Alors, on n'en est peut-être pas tous à cette situation-là. Et évidemment, les gens vont me dire « Mais non, mais regardez, les homosexuels aujourd'hui ne sont pas tapés par les flics. Les femmes non plus. » Enfin, ça dépend. Mais il y a des enjeux politiques tellement énormes qu'il y a des vies en jeu.
Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Bonsoir. C'est pas vraiment une question. Avant tout, c'est un petit rebondissement sur ce que vous disiez tout à l'heure, que parfois, il y a des personnes qui fatiguent, qui en ont marre d'essayer, qui en ont juste ras-le-bol. J'avais un prof, quand j'étais plus jeune, qui me disait « Tous les élèves, je peux pas les sauver. J'y arriverai pas, c'est normal, je suis humain, je peux pas avoir 30 gamins qui vont réussir. Mais si j'en ai sauvé un, j'ai fait ma mission. Si juste un, j'ai pu l'aider, c'est tout ce qui compte. » Et ben, je vous dis ça. Si juste un, vous pouvez l'aider, vous pouvez lui faire ouvrir ses yeux, lui faire retirer les œillères, c'est super. Donc, continuons. Si juste un, c'est réussi, c'est mission accomplie.
Ok, merci.
Vous posez la question, Victoire, aux deux invités, comment est-ce qu'ils géraient l'épuisement? Et moi, je me pose vraiment la question pour vous, en fait, puisque vous passez votre temps à traiter ce sujet.
Ah non, mais moi, ça va hyper bien. Franchement,
Sur le long terme, en fait, comment est-ce que si vous passez des années à traiter ces histoires, est-ce que vous n'avez pas peur de
l'épuisement? Moi, je suis dans une position hyper privilégiée, pour le coup. Donc, désolée, je vous ai coupé la parole, mais parce que c'est bien, du coup, j'ai l'occasion de le dire là. En fait. Déjà, moi, je milite pas sur le terrain, donc je suis pas confrontée et tout. Là, je suis entourée. Là, je suis salariée à temps plein d'une entreprise de médias qui me laisse faire ce sujet, qui me dit jamais ce que je dois en dire et qui me laisse le temps de préparer les émissions, etc. Donc voilà, j'habite dans le 19e à Paris, je travaille dans le 19e à Paris. Plus jamais, en fait, ça m'arrive. Je suis dans une position qui est hyper confortable. Par contre, c'est bon. Évidemment, ça veut dire que tous les jours, je lis les récits de violences sexuelles. Tous les jours, on apprend qu'il y a une femme qui a été tuée. Enfin, c'est... Je sais pas. Oui, il y a plein de trucs absolument désespérants, mais je suis dans la situation la plus privilégiée pour parler de ça, en fait. Donc, moi, c'est pas du tout une question, ma santé mentale et mon épuisement par rapport à ça. Pas du tout. Au contraire. Enfin, c'est... Non, non. Voilà. Mais, et après, je suis de nature assez optimiste. Enfin, je suis obsédée par la mort et tout. Voilà, on va tous mourir, tout ça. Je pense pas tellement que que le monde puisse changer, etc. Mais il y a plus le truc de... OK, vu qu'on est vivant pour un court temps, comment est-ce qu'on va faire pour vivre les vies qui vont nous rendre les plus libres possibles et tout. Et j'estime que voilà, mon taf comme journaliste, puisque j'ai reçu une éducation, puisque je viens d'un milieu social qui m'a permis de faire les études que j'ai faites, donc un milieu social privilégié, avec un gros capital culturel, etc. Donc c'était logique, en fait, que je fasse ça. Et du coup, je me dis, comme privilégié, à quoi je peux servir? Je peux servir à faire des émissions, par exemple, dont les auditeuristes me disent que ça leur sert dans leur vie de tous les jours, etc. Et c'est ça mon rôle, et c'est ça que je dois faire, et c'est pour ça que je travaille. Donc, mais c'est pas du tout. Ce serait indécent de se plaindre de la fatigue ou je sais pas quoi par rapport à ça. J'ai pas de problème. Contrairement à plein de collègues journalistes féministes et tout, qui elles se prennent des torrents de merde sur les réseaux sociaux et tout. Moi, ça m'est jamais arrivé. Donc, voilà. Je crois qu'on va arriver à la fin, mais peut-être qu'on peut prendre une toute dernière question.
Bonjour. Quand on parlait d'agir sur des personnes, peut-être qu'un jour j'aurai un fils.
Ouais.
Et c'est une personne dont je peux totalement agir dessus, techniquement.
C'est pas dit, parce que les enfants, c'est pas de la pâte à modeler. Il paraît que tu les modèles pas si facilement, quoi.
Est-ce que inculquer des choses et vouloir que ça passe et que ça change les choses, du coup, ce serait pas lui infliger des difficultés par rapport à la norme sociétale? Je ne sais pas si je m'exprime bien.
Bien sûr. En fait, c'est une question qu'on a traitée dans l'épisode avec Aurélia Blanc qui s'appelle « J'élève mon fils », où c'est un truc que, on dit super, mon fils, je vais l'élever de façon non genrée, il va avoir le droit de mettre du vernis à ongles et du rose et des robes et tout parce que ça lui plaît et qu'il n'a pas encore intégré tous les codes sexistes de la société. Et après, il va à l'école. Et après, tout le monde se fout de sa gueule. Et après, il revient. Et quoi, en fait? Est-ce que je le prépare bien, etc. Et j'aimais bien... je sais pas, tu veux...
Ouais, moi, j'ai des ados. J'ai des mecs chez moi, des ados. Le conflit de loyauté avec les potes, crois-moi qu'il pèse. L'air de rien, tabou, effectivement, donner des valeurs qui sont là. Autant les donner, j'ai envie de dire. Mais la pression du groupe et les conflits de loyauté, c'est quand même quelque chose de très fort. Et dès le collège, en plus, on sait, dès le collège, c'est les pères, PAIR, qui prennent plus de place que les pères et les mères, très, très clairement. Suivant ton environnement, suivant tout un tas de facteurs, on a dit de groupe, les choix qu'ils font, etc. Des fois, tu peux être assez surpris par leur prise de parole ou leur position. Mais je pense qu'effectivement, cette graine posée, ce que raconte Aurélia dans son livre, qui est vraiment très bien pour le coup, qui donne plein de pistes. Tu seras un homme féministe, mon fils. On peut le faire. Après, voilà, chacun chemine au milieu de tout ça, quoi.
C'est la fin de cette rencontre-là. Avant de terminer, on m'a posé la question de qu'est-ce que je conseille comme lecture, qu'est-ce que je recommande absolument. Bon, déjà, je vous recommande de lire tous les livres des invités des émissions. C'est pas difficile à lire. C'est toujours très intéressant. L'été, c'est vraiment la saison idéale, je trouve, pour le faire. Si vous n'êtes pas obligé de travailler, si vous avez des congés, si vous avez la chance d'avoir des heures pour prendre un bon bouquin et plonger dedans, je vous le souhaite. Moi, c'est vraiment une de mes activités préférées dans la vie, avec écouter des vinyles en regardant le plafond et m'entraîner à faire bouger mes doigts de pied indépendamment des uns des autres, c'est-à-dire ne rien faire. Et donc, je vous conseille plusieurs livres. Je me suis dit que dans la catégorie les indispensables féministes, qu'est-ce qu'il faut absolument lire et tout. Bon, je l'ai assez répété, mais je pense que si vous n'avez jamais lu King Kong Theory de Virginie Despentes, il faut le lire. Je vais les lancer par terre, mais je les aime beaucoup. Respectons les livres, mais voilà. Hop. Ensuite, c'est peut-être le bon moment de lire Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est volumineux, mais c'est extrêmement bien écrit. Je l'ai relu cette année et j'ai aussi lu les mémoires de Simone de Beauvoir, donc les mémoires d'une jeune fille rangée et La force de l'âge. C'est absolument génial. Mais si vous n'avez pas le courage de lire tout, il y a un petit extrait qui est la fin du deuxième tome du deuxième sexe, qui s'appelle La femme indépendante, et qui vous laissera. Moi, ça m'a laissé. Désespérée et très optimiste à la fois. Donc voilà, parce qu'en fait, elle parle d'une femme dans les années 50, mais en fait, c'est plein de femmes qui vivent aujourd'hui. Donc voilà. Je conseille aussi ce livre de Bell Hooks, qui est une militante afroféministe américaine, qui s'appelle Ne suis-je pas une femme, sur les femmes noires et le féminisme. Voilà. Et enfin, en livre indispensable de féministe, il y a Le Sorcière de Mona Chollet, qui est absolument génial à lire. Et voilà. Et normalement, si vous commencez, vous n'arrêtez plus. On m'a aussi posé la question de qu'est-ce qu'on offre aux ados, aux enfants, pas tellement aux enfants, mais plutôt aux ados et genre aux petites sœurs, aux cousines, etc. Il y a ce livre qui s'appelle Beyoncé est-elle féministe, qui est très bien fait et bien illustré et bien mis en page, etc. Donc voilà, je le conseille. Et enfin, dans la catégorie... ah oui, non, il y a aussi celui-là, qui est L'amour après MeToo, parce que là, on a beaucoup parlé de drague et tout, et moi, on me pose tellement de questions là-dessus, genre, à quoi ça peut ressembler de la drague féministe? Et en fait, est-ce que les hommes et les femmes vont encore pouvoir avoir des relations ensemble si un monde féministe existe et tout? Oui. Oui, bien sûr. Donc, il y a L'amour après MeToo de Fiona Schmidt, qui est drôle et bien écrit, et donc qui est sous-titré « Traité de séduction à l'usage des hommes qui ne savent plus comment parler aux femmes ». Voilà, je le conseille. Et enfin, dans Inclassable, parce que c'est l'été et que c'est érotique et que c'est puissant, je vous conseille de lire Les chemins de désir de Claire Richard. Voilà. Est-ce que vous avez des livres à conseiller pour cet été?
Moi, je dis souvent aux mecs de lire Martin Winkler, Le cœur des femmes, parce que pour le coup, on apprend pas mal de choses sur effectivement la contraception, sur l'appareil génital féminin, sur les visites gynécologiques, enfin les trucs qu'on nous on vit pas du tout et qu'on fantasme ou on imagine.
On n'y pense pas,
ou ouais. Souvent à côté de la plaque, quoi.
Super. Et toi, Jocelyn?
Là, comme ça, tout de suite...
Un roman, si tu veux.
Un roman?
Ouais, peut-être
tu... Mais je n'ai pas lu de roman depuis 6 ans, j'étais
ma thèse. Ah ouais, désolé. Ok.
Bon. Non, je pense au livre de Mélanie Gouarier, qui est une collègue de Paris 8 aussi, qui a écrit donc Alpha Male. Et c'est intéressant de voir dans ce livre comment se reconfigure sans cesse, en fait. Parce que quand on pense masculinité et féminité, on imagine des types ou des actions assez typiques et qui ne bougent pas. En fait, ça change constamment. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, être un homme, c'était différent d'il y a dans 10 ans.
Et puis ça dépend des contextes.
Ce qui ne veut pas dire que la domination masculine disparaît.
Et oui.
C'est-à-dire que ça se reconfigure pour se maintenir. Donc peut-être qu'aujourd'hui, pour être un homme un peu dominant, il faut avoir une petite touche de féminisme.
Bah, c'est clair, c'est chiant. Voilà. Ça aide, hein, c'est sûr, dans les codes de séduction, etc. Donc,
et c'est
un livre vigilant par rapport à ça.
De chercheuse, mais qui se lit très facilement.
C'est vrai.
Et j'espère que comme ça, un jour, elle fera la promotion de mon livre quand je l'aurai sorti.
Voilà, tu veux dire un dernier truc?
Non, je disais juste qu'on peut aussi inviter son mec à écouter, ou son copain, ses amis, son père, son grand-père, à écouter, se refaire la complète des couilles sur la table
totale.
Cet été.
Ouais. Binger voilà. Les couilles sur la table.
Ouais.
Voilà, ok.
Non, mais très bien.
Bon, eh bien,
merci
beaucoup. Merci à tous les deux. C'est la fin de cet épisode spécial. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Ça a été une année intense pour moi. Et donc, c'est pas fini, puisque j'écris ce livre des couilles sur la table. Mais les émissions s'arrêtent pour l'été. Donc, je veux dire merci beaucoup aux invités de l'émission. Si l'émission existe, c'est pas parce que moi je parle, mais c'est parce qu'en fait, il y a des gens qui font un travail important, notamment à l'université, qui n'est pas reconnu et qui est mal rémunéré. Alors que c'est un travail de pensée, de production de pensée qui est absolument essentiel si on veut comprendre le monde dans lequel on vit. Et c'est aussi grâce au travail des militants et des militantes féministes. Tu m'as coupé ma chute. Bon, et donc l'émission existe aussi grâce au travail de toutes les militantes et de quelques militants féministes qui se battent depuis des décennies partout où ils le peuvent, partout où on en a besoin, pour qu'on ait enfin la possibilité de vivre des vies libres indépendamment de notre genre. Merci aussi à toute l'équipe de Binge Audio qui m'a donné les moyens de travailler. Moi, c'est la première fois comme journaliste que je travaille dans une rédaction aussi joyeuse, aussi stimulante et aussi safe. On parle en écriture inclusive sur le Slack et j'ai jamais entendu une blague sexiste pour l'instant. À Binge, on est maintenant 17. J'aime chacun de mes collègues dont certains sont présents ici. Mais je voudrais remercier en particulier Quentin Bresson, le réalisateur de l'émission, qui enregistre, monte et réalise chaque épisode des Couilles sur la table avec une patience et un professionnalisme qui force mon admiration à chaque fois. Merci à Camille Regache, qui s'occupe de l'édition, c'est-à-dire des textes, de la mise en ligne, du choix des images et des titres. C'est toujours elle qui trouve les meilleurs titres. Par exemple, le clergé, le bien et le mal. C'est elle. Merci à David Carzon, qui est le directeur de la rédaction. C'est donc mon chef. Et c'est le meilleur chef que j'ai jamais eu, puisqu'il m'a toujours laissé libre de faire absolument ce que je voulais. Et que, en même temps, quand j'ai des doutes et que je sais plus où est-ce que j'en suis, eh ben, il est là. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à Nadia Chappelle, qui est en stage avec moi depuis 4 mois et qui fait un travail formidable. Elle contribue notamment à répondre aux messages que je reçois, que vous m'envoyez. Et elle le fait avec beaucoup de maturité et beaucoup d'empathie. Donc merci à Nadia Chappelle. À Binge Audio, on produit par ailleurs une trentaine de podcasts différents. Moi, je vous recommande d'écouter Programme B, qui qui peut compléter, voire remplacer les matinales radio du matin, où chaque jour, vous allez apprendre un truc différent et intéressant sur le monde, et qui prend très fort en compte les questions de genre, de race et de classe dans la façon de traiter les sujets. Je vous recommande aussi d'écouter Kif ta race, d'écouter Miroir Miroir, et pour rigoler, d'écouter, ça ne dure que 3 minutes, le podcast A Déroulé, qui est fait par la géniale Juliette Libartowski, qui vous lit des fils Twitter. Et puis, à bientôt de te revoir, de Sophie-Marie Laroui, qui sont des entretiens comme vous n'en avez jamais entendu ailleurs. Merci beaucoup à My Little Paris de nous avoir accueillis. Merci pour votre newsletter Mona. Et puis, merci à vous, chers auditeuristes, chers spectateuristes, et bientôt, chers lecteuristes. Je sais, c'est pas très beau, mais on va s'habituer à ces mots. Merci d'être là, merci de donner votre temps et votre attention à ce programme des Couilles sur la table, alors que la vie est courte et que les sollicitations ne manquent pas. Merci beaucoup, vive le podcast, vive les livres, vive les révolutions féministes, et à bientôt.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.